vais vous dire, les gars, ce qu'il faut faire pour faire augmenter vos salaires. D'abord, parler avec les potes et faire une section syndicale. Tous solidaires, ce sera pas long pour faire la nique au patron. Moins d'heures de boulot, meilleures conditions de travail, les congés payés, les gosses au bord de la mer. Ça semble simple, mais ça l'est pas, et je vais vous expliquer mieux que ça. Pourquoi faut rejoindre le syndicat? Car si vous croyez que le patron va de lui-même vous augmenter, vous serez là au jugement dernier. On sera tous morts et enterrés, au paradis bien sûr, et Saint-Pierre sera un bon patron pardi. Vous savez bien que vous êtes exploité, mais le patron, il dit que non. Il force les cadences à t'en faire crever. Tu peux être viré, mais te laisse pas faire. Faut tous signer une pétition et organiser un meeting. Discutez, donnez votre avis, décidez, faites quelque chose. Patron futé comme un bison trouvera toujours le compte service qu'il enverra dans votre meeting pour moucharder et provoquer. Faudra tout de suite dire aux débiles que le jaune lui va pas au teint. Arrête de faire la mouche, t'auras pas d'histoire, et le mec aveugle retrouvera la vue. Maintenant votre section est créée, vous tenez votre première réunion. Choisissez bien quelques copains pour composer votre bureau. Le patron qui est sourd quand un seul jeune entend très bien le syndicat. Il est beau joueur, hein? Et il est tout seul. Allez les gars, on va le trouver. Mettons que votre boulot soit l'enfer avec un salaire de misère. Le patron se met à gueuler, feignant pas de rallonge enfoiré. Mais regardant par la fenêtre, il voit des milliers de gars unis. Salaud, affameur, négrier, il bat sa femme, on peut le parier. Les gars, le plus dur, il reste à faire, tout sera bon pour vous foutre en l'air. La police, la garde nationale, c'est un crime, une carte syndicale. Vos meetings seront perturbés, on matraquera tous ceux qui bougent. Sale bande de rouges, anti-américains, espions japonais, saboteurs de la défense nationale. Mais chez Ford, ce qu'ils ont compris, et chez Renault, ce qu'ils ont compris, et chez Lip, ce qu'ils ont compris, et chez Rodia Seta aussi, aux joints français, ce qu'ils ont compris, un peu partout, ce qu'on a compris. Si on se laisse pas faire par les fachos, si on se laisse pas faire par les provocateurs, si on se laisse pas faire par les milices, si on se laisse pas faire par les jaunes, par les flics, par le gouvernement, si on se laisse pas baiser par les patrons, eh bien les gars, on gagnera. Enfin, ce que je vous en dis, prenez-le comme vous voulez, mais faites-le.
Chronique syndicale ce matin avec Loïc Vacan, qui est déjà venu il y a quelque temps dans ce studio, nous parlait des ghettos noirs et de la boxe dans ces ghettos, et qui aujourd'hui va discuter avec moi sur la question centrale de son ouvrage, dont le titre est « Misère de l'ethnographie, de la misère », aux éditions Raison d'agir. Bonjour.
Bonjour.
Loïc.
Et merci de cette invitation.
Ouais, tu nous dis en deux mots un peu très rapidement qui tu es, d'où tu parles, et puis surtout la question qui est sans doute un peu centrale, c'est quoi l'ethnologie, l'ethnographie, toutes les différences entre ces choses.
Alors, je suis sociologue, professeur à l'Université de Californie, à Berkeley, qui est une université publique. Souvent, les gens pensent que c'est une université privée parce qu'elle est très renommée, mais non, je fais partie du service public en Californie et chercheur associé au Centre européen, au Centre européen de sociologie et de sciences politiques. Et mes spécialités de recherche sont la marginalité urbaine comparée, le corps, l'état pénal, et puis la théorie et l'épistémologie sociologique, qui sont une réflexion sur comment le sociologue, ou l'ethnologue, ou l'anthropologue, produit son objet, et comment il valide le savoir qu'il produit.
Ouais, c'est comment il le regarde, comment il analyse, et qu'est-ce qu'il produit comme savoir autour de son observation, quoi.
Oui, l'épistémologie, c'est en quelque sorte se mettre en retrait, et regarder le sociologue au travail. Donc c'est poser la question des catégories qu'il utilise, des questions qu'il pose, des méthodes qu'il met en œuvre, et c'est essayer de réfléchir et de donner des armes pour faire une recherche de meilleure qualité. En fait, là je dois aller à Dijon la semaine prochaine pour donner un une conférence qui s'appelle « Pourquoi faire de l'épistémologie ?» Et la réponse, c'est « Pour faire de la meilleure science.
» Très bien, on ne va pas épiloguer trop sur ces questions-là. Et donc, moi, ce qui m'a bien étonné, c'est le titre de cet ouvrage, « Misère de l'ethnographie de la misère », qui m'a renvoyé, alors, compte tenu de ma culture et du lieu où tu es, à « Misère de la philosophie, philosophie de la misère », donc débat entre Karl Marx et Proudhon, qui les a d'ailleurs fâchés définitivement.
Oui. Ben, c'est, en fait, j'avais en tête l'ouvrage de Marx, Misère de la philosophie, et j'avais aussi le mot de misère, il a une grande résonance littéraire dans la culture française. Il y a évidemment un clin d'œil à La misère du monde, le livre dirigé par Bourdieu en 1993, et puis ça me permettait de focaliser... mon titre, d'indiquer justement la position en retrait que je prenais, la position d'analyse de l'ethnographie de la misère, et puis bon, c'est un joli titre. Ouais. Si j'avais un titre plus savant, qui va peut-être effrayer vos auditeurs, je pensais à un moment donné lui donner le titre « Critique de la raison ethnographique ».
Ouais, ça renvoie à Kant, carrément.
Voilà.
Voilà. Voilà. Mais,
et puis à Sartre.
Et à Sartre, effectivement, tout à fait. Voilà, bon. Misère de l'ethnographie, ça donne quand même une première idée qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans le monde de l'ethnographie, ou de l'ethnologie, ou de l'anthropologie, voire de la sociologie. Ouais. On y reviendra peut-être. Mais avant de revenir, non pas sur le titre, mais sur la dédicace aux Visigoths, alors là, j'ai été tout à fait étonné que tu puisses dédicacer ton livre aux Visigoths.
Alors ça, c'est un secret.
C'est un secret.
Garde-le, alors. Je laisse les lecteurs spéculer sur l'identité de cette personne.
Ouais, parce que c'est au singulier, en plus.
Oui,
c'est même pas la grande tribu, grand groupe visigothique.
Et je pense que le lecteur, en voyant cette dédicace, se doute que si je n'ai pas utilisé le véritable nom de cette personne, c'est que je ne veux pas le partager.
Très bien.
Ça reste un secret entre moi et peut-être...
Et le Visigoth.
Et le Visigoth et deux autres personnes.
D'accord. On le saura peut-être un jour, ça. Voilà. Grosso modo, ce livre donc, sur la misère de l'ethnographie, c'est quand même une réflexion sur la domination, et particulièrement sur la domination des populations afro-américaines.
Oui. Alors, peut-être avant d'en venir à ce sujet de la domination, je voudrais dire en propos préliminaire, qu'est-ce que c'est que l'ethnographie ? Parce que certains de vos
auditeurs... Oui, c'est vrai que c'est une question que j'ai posée.
C'est une des techniques... de production des données et d'analyse des données que le sociologue utilise. Alors il y a quatre grandes techniques. Les sociologues font des enquêtes par questionnaire, qui en général donnent lieu à des analyses quantitatives. Ils font également des études historiques. Les sociologues travaillent les archives et font ce qu'on appelle la sociologie historique. Il y a également le travail sur les textes, donc une approche herméneutique, l'analyse et le décryptage des textes. Et puis il y a la méthode ethnographique, qu'on appelle aussi travail de terrain. Alors le terrain, c'est le site sur lequel on va faire son observation. Et ce qui définit l'ethnographie en propre, c'est que le chercheur va chercher à s'immiscer dans le système des rapports qu'il va étudier. Il va essayer de s'immerger dans le monde qu'il étudie. Alors cette immersion, elle a trois dimensions, c'est ce que j'explique dans le livre. Il y a une dimension proprement sociale, j'essaie de m'insérer dans les rapports sociaux que je vais étudier. Par exemple, dans le cas de mon livre sur la boxe, Corps et âme, je suis rentré dans une salle de boxe, je me suis inscrit, j'ai appris à boxer, je suis devenu en quelque sorte une partie du phénomène. Donc ça, c'est l'insertion sociale. Il y a également une insertion qu'on peut dire symbolique. L'insertion symbolique, c'est chercher à percer le sens que les gens donnent à leur action dans l'univers que l'on étudie. Donc c'est comprendre les symboles, comprendre le langage, comprendre ce que les gens veulent dire dans leur quotidien.
Et leurs attitudes peut-être, leur corps, t'en parlais.
Tout à fait. Et la troisième insertion, c'est une insertion temporelle. Il faut rester. En général, on considère qu'un bon travail de terrain requiert une année pour faire tous les mois du calendrier. Et c'est une méthode que les sociologues partagent avec les anthropologues. Donc, pour les anthropologues, c'est la méthode canonique. L'anthropologue ou l'ethnologue se définit par le travail de terrain. Mais pour les sociologues, c'est une technique parmi d'autres. Et ce que j'essaie de dire dans le livre, c'est que c'est une technique qu'on ne doit pas utiliser de manière, en quelque sorte, solipsiste, de manière fermée sur l'ethnographie, mais que l'on doit combiner avec la théorie. Or, un des grands défauts de l'ethnographie en sociologie, c'est qu'elle est complètement athéorique, donc elle n'est pas armée pour produire des données, pour produire des interprétations qui sont convaincantes.
Voilà, et avoir des capacités à l'auto-analyse de ses propres productions, quoi.
Tout à fait.
Ouais. Reste que, même quand le sociologue ou l'ethnologue s'implique dans un milieu, il y a des effets systémiques quand même, parce que c'est quand même souvent un corps un peu rajouté, étranger, voisin, qui peut produire les propres des effets sur l'organisation de ce qu'il observe.
Tout à fait. Ben, l'ethnographe ne prétend pas s'insérer dans le milieu et ne produire aucun effet. Au contraire, il va se servir des effets qu'il produit pour connaître, pour comprendre ce qui se passe. Et l'ethnographe, il est toujours inséré. Il y a trois, ce que j'appelle les trois circuits du pouvoir dans la production ethnographique. La première dimension du pouvoir, c'est que l'ethnographe observe un monde dans lequel il y a des rapports de pouvoir. Quand par exemple, les ouvrages que je critique, il y a notamment un ouvrage de Mitch Dunayer qui étudie les hommes noirs qui sont sans abri et qui vendent des magazines de seconde main sur des tables posées sur les trottoirs dans le quartier de Greenwich à New York. Bien, ces hommes, ils ont entre eux des rapports de pouvoir. Ils ont également des rapports de pouvoir avec leurs clients qui achètent des livres. Donc, l'observateur, l'ethnographe observant son objet, il voit un monde dans lequel il y a des rapports de pouvoir. Deuxième circuit du pouvoir, c'est le rapport de l'ethnographe à ses sujets, le rapport de l'ethnographe aux gens qu'il observe. Et là, c'est un biais, c'est un blanc complet que nous livre Mitch Dunayer. Il ne dit rien sur les rapports de pouvoir qui le lient, lui, ethnographe, à ces hommes qui vendent, à ces revendeurs de magazines de rue. Donc ça, c'est le deuxième circuit de pouvoir. Et le troisième circuit, c'est le circuit dans lequel va circuler le produit du travail ethnographique, c'est-à-dire les ethnographes, ils produisent soit des articles pour des revues scientifiques, soit très souvent un livre, alors qu'on appelle une monographie. Monographie, ça dit bien, c'est graphéine, écrire mono sur un objet. Donc, une monographie ethnographique, elle va être lue non seulement par les collègues, par les pairs, par d'autres chercheurs en sciences sociales, mais elle va être souvent lue par un public plus large, un public éduqué qui s'intéresse, qui est curieux sur ce monde social dans lequel l'ethnographe va vous faire rentrer. Pourquoi ? Parce que très souvent, elle a une facture narrative et donc elle donne le sens de la vie au quotidien dans ce milieu particulier, et donc elle attire des lecteurs qui sont pas des lecteurs savants, et elle devient donc il y a pour l'ethnographe se poser la question du pouvoir, des rapports de pouvoir dans lesquels son texte va rentrer, rapports de pouvoir au sein du monde universitaire, rapports de pouvoir avec les lecteurs, rapports de pouvoir avec les débats de politique publique et les débats politiques qui vont porter sur l'objet sur lequel il a travaillé. Par exemple, le troisième livre que je critique, Kathy Newman, qui a fait une étude sur les jeunes hommes noirs de Harlem qui travaillent dans les fast-food. La question de savoir s'il faut plus de fast-food ou moins de fast-food pour créer des emplois, c'est une question qui, au moment où elle écrit cet ouvrage, se pose dans la politique et dans les débats de politique publique aux États-Unis. Et donc son livre, qu'elle le veuille ou non, est une intervention dans ces débats. Et pour cela, le sociologue doit toujours être précautionneux.
Les chroniques syndicales, toujours en compagnie de Loïc Vacant et autour de son ouvrage « Misère de l'ethnographie de la misère » aux éditions Raison d'agir. Donc, le cœur de l'ouvrage, au-delà de la critique de trois documents qui ont été produits il y a une vingtaine d'années, c'est quand même une réflexion sur la domination et une réflexion sur quelque chose qu'on pourrait qualifier d'une espèce d'inconscient social et racial de la sociologie aux États-Unis. Ou au moins de certains sociologues.
Oui, alors c'est vrai que le cœur du livre, c'est une critique, c'est porter au jour cet inconscient social et racial de l'Amérique qui se trouve en quelque sorte révélé et projeté dans les trois livres dont je fais une critique serrée. Et cet inconscient, il s'exprime dans le fait que les rapports de classe, que cette sociologie, elle se focalise sur les rapports de face à face, les interactions au quotidien. Et donc, elle oublie les positions sociales que les gens occupent dans une structure de classe, ce que Marx appellerait les rapports objectifs, qui se jouent dans le dos des agents et dont les agents ne sont pas nécessairement conscients. Ça, c'est première dimension. Et je montre que cette sociologie de la misère, finalement, elle passe sous silence les effets de deux forces très, très importantes dans toute société, c'est la force du capital à travers le jeu du marché, notamment le marché du travail, ces ethnographies de la misère oublient de nous dire que cette misère, elle est le produit de la dérégulation du marché du travail et de la profusion, de la prolifération du salariat de misère, en quelque sorte. Ouais. Deuxième élément qui manque dans ces analyses, c'est l'absence de l'État. Et l'État est une institution qui non seulement régule la misère quand elle est là, par le biais du travail social, par le biais des aides, par le biais de...
Qui la régule ou qui l'organise aussi.
Mais aussi, il la produit. Il la produit. Donc on a l'habitude de voir l'action de l'État comme étant en quelque sorte en aval des processus sociaux. Donc l'État intervient à la manière d'une ambulance qui vient quand le problème de la pauvreté se fait trop prégnant et trop voyant aussi. Et donc, il déploie sa main gauche pour produire des aides sociales, l'aide au logement,
l'aide alimentaire, éventuellement.
Etc. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est que l'État, en fait, n'est pas simplement, il ne se contente pas de réagir à la misère, il est aussi producteur de la misère en amont. Et c'est une des choses qui disparaît complètement dans ces ethnographies de la pauvreté au niveau de la rue. C'est tous les processus qui viennent avant la rue et qui déterminent les gens à être à la rue.
Mais il y a quand même une forme d'aveuglement de cette sociologie-là, quand même. Hein, puisqu'ils travaillent avec des gens ou à côté de gens extrêmement pauvres, les vendeurs de journaux, les jeunes dans les McDo, et puis le troisième, je ne l'ai pas en tête, mais ça va me revenir, et qui ne voient pas qu'effectivement, il y a quelque chose qui relève de la domination et qui relève du rapport de classe, voire du rapport de race.
Alors, je vais l'ouvrage que vous avez oublié, c'est l'ouvrage de Elijah Anderson, qui est le plus grand sociologue noir qui fait de l'ethnographie, et il a écrit un livre qui s'appelle « Le code de la rue », dans lequel il décrit les batailles, les bagarres entre ce qu'il appelle les familles décentes, qui sont orientées vers la société conventionnelle, et puis ce qu'il appelle les familles de rue, qui, elles, sont dominées par l'imbrication dans l'économie criminelle de la rue, les valeurs masculines, les valeurs de violence aussi. Et alors il décrit cela comme, en quelque sorte, des batailles entre deux moralités. Il y aurait donc la morale décente, la morale conventionnelle, et puis la morale de rue, qui est en fait une morale sous-prolétaire. Et moi, ce que je montre, c'est qu'à partir des données que lui-même livre dans son propre ouvrage, donc je fais une critique interne, je dis en fait, dans son propre ouvrage, ce qu'il montre, c'est que c'est une bataille entre deux fractions de la classe ouvrière noire, une fraction justement qui s'accroche au salariat stable et qui, grâce au salariat stable, peut avoir une famille stable et se projeter dans l'avenir, et une fraction sous-prolétarisée, voire déprolétarisée, qui se trouve en fait rejetée en dessous du salariat. Sous-prolétaire, c'est quelqu'un qui est en dessous du prolétariat, dont la force de travail n'est même pas vendable. Il n'y a plus d'acheteurs pour c'est une population en quelque sorte surnuméraire et qui, pour survivre, va s'impliquer dans l'économie de la rue, et l'économie principale de la rue, c'est l'économie de la drogue. Et l'économie de la drogue, elle est régulée comment? Elle est régulée par la violence. Donc il faut être capable de, à la fois, de supporter et d'infliger la violence. Et donc ce code de la rue, c'est ce code masculin qui incarne, qui ramasse ces valeurs qui font que quand on suit le code de la rue, on doit être à tout moment prêt à supporter ou à s'engager dans la violence. Ouais. Et donc, ce qu'il montre comme des batailles, une bataille morale, en fait, c'est une bataille entre deux fractions de classe.
Ouais. Et puis, il y a un côté, quand même, on dirait, il y a les bons noirs qui sont intégrés, qui travaillent, et puis il y a tous les autres, une espèce de lumpen prolétariat de couleur, qui a des règles qui ne sont pas acceptables.
Alors, tout à fait. Et alors, ce qui est un des défauts du livre de Elijah Anderson que je pointe, et qui est un défaut commun dans les ethnographies sur les populations pauvres, c'est que le sociologue, au lieu de rapporter simplement, au lieu dans ce cas-là de rapporter qu'il y a dans le ghetto une lutte entre ces familles décentes et ces familles de rue, il prend parti, il prend fait et cause pour les familles décentes, et il décrit cette lutte du point de vue des familles décentes. Et d'une certaine manière, il participe à la condamnation morale et au jugement négatif que la société porte sur ces familles sous-prolétariennes. Et donc le remède pour ça, c'est de bien marquer que le sociologue doit rapporter dans son compte-rendu de terrain qu'il y a une lutte morale, une lutte symbolique, on dirait, plus largement, entre des fractions de classe, mais il doit faire attention de ne pas prendre parti dans ces luttes.
Oui, si c'est le cas, il renforce les idées, les stigmates qui sont produits par la société sur ces populations-là, en plus.
Tout à fait, il reprend les stéréotypes, et soit il les renforce, ou soit, alors c'est un autre défaut, il les renverse. Alors ça, c'est le premier livre de Mitch Dunayer sur les vendeurs les vendeurs sans-abri de magazines de seconde main. Il dit, voilà le stéréotype de ces hommes. Ils sont désintégrés, ils sont sans morale, ils sont sans foi ni loi. Ils sont aussi un vecteur de criminalité et d'insécurité dans la rue. Et il dit, voilà le stéréotype que l'on a. Eh bien moi, je vais vous montrer que non seulement ils ne pensent pas ça, mais ils sont tout l'inverse. Et ce qu'il fait, c'est qu'il renverse le stéréotype et il présente ces hommes noirs sans abri comme des parangons de vertu. Or, je montre en fait que ils sont comme dans tous les mondes, notamment les mondes sous-prolétaires, c'est un mélange de moralité et d'immoralité, de légalité et d'illégalité, d'intégration et de désintégration, et que c'est un monde complexe et mouvant, mais que lui, comme il veut renverser le stéréotype, il censure une grande partie des pratiques et des représentations de ces hommes, et finalement, il fait finalement, il y a deux erreurs. La première erreur, c'est de renforcer le stéréotype. Et la seconde erreur, c'est en fait de canoniser le stéréotype en l'inversant.
Oui, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ces gens, bien qu'ils soient dans une situation économique et sociale extrêmement difficile, sont quasiment des modèles de vertu, quoi.
Des modèles de vertu, et en quelque sorte, ils sont comme vous et moi, sauf qu'ils vivent à la rue. Ben oui. Mais vivre à la rue, on ne vit pas à la rue comme on vit une vie de classe moyenne normale. Par exemple, une des choses qu'il censure complètement, parce qu'il veut présenter ces hommes sous un jour favorable, sous un jour propice, sous un jour qui leur rend de la valeur, il censure deux choses. Il dit, dès qu'il y avait de la violence, dès qu'il y avait du tiraillement, de la colère qui montait, soit entre ces hommes eux-mêmes, entre ces vendeurs de rue, ou entre les vendeurs de rue et les clients ou les passants qui passent à côté de leur table, il disait, je me retirais. Or, dans la rue, malheureusement, une des choses qui existent, c'est que les rapports sociaux sont très brutaux, puisque par définition, on ne fait pas appel aux forces de l'ordre, aux mécanismes ordinaires de maintien de contrôle social. Et l'autre chose qu'il censure, c'est la nuit. La nuit, il disparaissait, donc à la tombée de la nuit, il disparaissait, il retournait dans son petit appartement. Alors que, évidemment, quand vous êtes un homme qui travaille dans la rue mais qui est sans abri, le moment décisif, c'est justement quand la nuit tombe. Et donc, il laisse inexpliquer comment ces hommes qui vivent dans la rue, donc qui dorment sur des cartons, dans des portes cochères, dans les couloirs du métro de New York, comment ces hommes arrivent à trouver d'abord un endroit pour dormir, et surtout, ils n'expliquent pas comment ces hommes qui, d'après ses dires, gagnent plusieurs centaines de dollars, donc ont cet argent sur eux, comment ils arrivent à résister aux prédateurs de rue qui sont là pour leur faire la peau et surtout leur faire les poches. Et donc, il est évident que cette vie de nocturne dans la rue, elle se passe, c'est une vie qui est faite de danger et qui est faite de violence, qu'il exclut du livre entièrement, de ses récits, pour donner une vision, disons, à l'eau de rose de ces vendeurs de rue.
Radio Libertaire 89.4 en compagnie de Loïc Vacan autour de Misère de l'ethnographie de la misère aux éditions Raison d'agir. Donc quand on lit ton ouvrage et la critique que tu fais de ces trois ouvrages, hein, puisque c'est un livre critique sur trois ouvrages anciens mais qui montrent effectivement les défauts ou les, les choses un peu insatisfaisantes dans ce travail ethnographique aux États-Unis. Il y a quand même quelque chose qui relève du moralisme dans l'ethnographie, quoi.
Oui, tout. Pas que l'ethnographie. En fait, c'est une caractéristique de la sociologie aux États-Unis.
Ce serait le protestantisme qui aurait produit ça ?
Oui, alors il y a les ethnographes tombent souvent dans un panneau qui est de voir le monde social à travers d'abord une vision individualiste et ensuite une vision moraliste. Et quand on met les deux ensemble, finalement, on dépeint la société comme un ensemble d'individus qui occupent la position qu'ils ont méritée par leur valeur morale. Et or, évidemment, ce qui disparaît, et beaucoup, il y a ce courant théorique qu'on appelle le symbolisme interactionniste, qui, depuis les débuts de l'école de Chicago dans les années 20...
L'école de Chicago, c'est les premiers chercheurs qui s'intéressent à la misère, aux quartiers pauvres.
C'est les premiers pas de la sociologie urbaine dans les années 20. Cette sociologie urbaine, et notamment l'ethnographie urbaine, elle démarre à Chicago dans les années 1920, parce que Chicago est une ville qui est en train de croître à une vitesse faramineuse, et dans lequel on a, en quelque sorte, on est à la confluence de l'urbanisation effrénée, de l'industrialisation sauvage et de l'immigration de masse. Et donc, au point de rencontre de ces trois phénomènes, on a la naissance de la sociologie urbaine. Mais cette sociologie urbaine, elle va être guidée dès l'origine par une vision de la société, qui est une vision donc micro-sociologique, où ce sont les rapports de face à face qui sont déterminants des stratégies et des représentations des agents, mais qui est aussi une vision moraliste, et qui est une vision dans laquelle les rapports sociaux sont principalement des rapports de communication.
Donc on oublie les rapports de classe, quoi.
On oublie les rapports de classe, et même on peut dire que les rapports de race, les rapports de domination raciale, sont euphémisés et sont présentés comme un cas parmi d'autres de domination ethnique. Or, en fait, ce qui caractérise la création du ghetto dès ses premières années, dans les années 1910-1920, c'est justement que la domination raciale qui est imposée aux Noirs, elle est d'un ordre qualitativement différent de celle qui est infligée aux immigrés européens venant, par exemple, d'Italie ou d'Europe de l'Est.
Mmh. Oui.
Et donc, on a une sociologie une sociologie qui reste en surface des rapports sociaux et qui reste coincée un peu dans la dimension micro-sociologique. Et c'est pour ça que il faut pas réduire le livre simplement à la discussion de cette controverse qui a eu lieu il y a 20 ans. D'abord, cette controverse, elle est toujours d'actualité parce que les défauts, les trappes dans lesquelles les ethnographes tombent aujourd'hui sont les mêmes qu'il y a 20 ans. Mais aussi, dans la troisième partie du livre, je développe une vision plus positive. Je dis quelles sont les leçons qu'on peut tirer de cette controverse ethnographique, quels sont les conseils positifs que l'on peut suivre afin d'améliorer justement la pratique ethnographique. Et un de ces conseils, c'est d'éviter ce que j'appelle le piège interactionniste. Alors le piège interactionniste, ça revient à vouloir résumer les rapports sociaux à tout ce qui est visible, à tout ce qui est donné immédiatement dans le périmètre de l'interaction, tout ce qui est observable sur le site du terrain de recherche. Et c'est oublier les rapports objectifs, les rapports de classe, les rapports de domination raciale, le rôle de l'État, qui en fait ne sont pas forcément visibles directement sur le travail de terrain, mais jouent toujours un rôle en déterminant la position que les gens occupent dans la structure de classe.
Oui, mais ça veut dire que si on ne prend pas en compte cette dimension et l'environnement dans lequel se jouent ces rapports de domination, il y a quelque chose qui relève d'un biais, quoi.
Oui, c'est un biais que donc c'est ce biais interactionniste. C'est aussi il y a un biais qu'on peut appeler présentiste. Le biais présentiste, c'est de vouloir saisir là aussi les interactions, de vouloir expliquer un milieu simplement à partir de ce qui est donné ici et maintenant, et sans voir que ce que les gens font dans leur vie quotidienne, ce sont des ethnographies de populations pauvres et déviantes, si on peut dire, mais on peut faire une ethnographie des professeurs, une ethnographie des poètes, une ethnographie des procureurs, une ethnographie des pugilistes, comme j'ai fait dans mon livre sur la boxe corps et âme. Mais Il faut toujours se rappeler que les agents que l'on étudie et les institutions que l'on étudie, ils ont une histoire. Et cette histoire, elle est notamment dans le corps des gens que l'on observe. Il y a des catégories de pensée, des désirs, des aspirations. Et ces désirs, ces aspirations, ces capacités, elles ont une histoire. Elles sont le produit de l'histoire individuelle, de l'histoire collective dont les agents sont le produit. Deuxième histoire, c'est l'histoire de l'institution. On ne peut pas tomber dans le piège qui consiste à voir, par exemple, imaginons que dans mon dernier travail de terrain, j'étudie la cour criminelle du comté de San Pedrito, en Californie. Et il faut voir que ce que j'observe, par exemple, lors d'une audience dans la cour du comté, ben, c'est la rencontre entre l'histoire que porte les procureurs, les défenseurs publics et les juges, donc leur histoire individuelle et collective, mais c'est aussi l'histoire de l'institution elle-même. Et que ce que je saisis à un moment donné, c'est en quelque sorte une coupe, c'est un arrêt sur image de l'histoire des individus, des agents d'un côté, et de l'histoire de l'institution de l'autre. Et un défaut très grave de l'ethnographie américaine, mais aussi de beaucoup d'ethnographies pratiquées en Europe et dans d'autres pays, c'est justement cet oubli de la double histoire de l'individu et de l'institution.
Ouais, on voit bien qu'en oubliant leurs histoires, ou ces histoires environnementales, eh bien, on en arrive, par rapport à ces populations pauvres, des populations afro-américaines, à des représentations qui sont erronés, qui sont insatisfaisants, qui sont partiels. Oui, hein, donc ça va donner une image de ces populations à d'autres, qui est une image qui est tout à fait incertaine, voire impalpable.
Et il y a deux pièges qui sont deux caractéristiques de ces images quand le sociologue ne maîtrise pas sa méthode et ne prend pas garde d'éviter de tomber dans le piège interactionniste, dans le piège présentiste. Il y a aussi un piège populiste. Le piège populiste, ça consiste à glorifier ces sujets, à ne vouloir en voir que ce qui est positif, à les célébrer, et on trouve notamment dans beaucoup d'ethnographies cette volonté. Alors c'est une volonté de réhabiliter en quelque sorte, mais cette volonté de réhabiliter, bah, elle tombe dans le défaut qui consiste à inverser les stéréotypes, et elle tombe aussi dans un moralisme. Alors là où il y avait un moralisme négatif, on va mettre un moralisme positif, mais on n'est pas sorti du moralisme.
Voilà. Alors, on le voit bien d'ailleurs dans l'exemple autour des McDo, par rapport à ces jeunes qui travaillent dans les McDo, où on en fait quasiment presque des héros, quoi.
Alors, cette ethnographie des jeunes noirs de Harlem qui travaillent dans les fast-food, ben, elle nous présente une vision sucrée de ce qu'est le travail dans les McDo. Elle présente ce travail comme étant un travail qualifié, comme par exemple quand il faut à la fois se servir, s'occuper des frites et être à la caisse et nettoyer, les préparer un hamburger. Donc ce travail est présenté comme un travail qualifié, comme un travail valorisant et comme un travail qui vous met le pied à l'étrier. Alors que quand on sort du périmètre de l'interaction dans un McDonald's particulier et qu'on regarde les données agrégées, par exemple sur les trajectoires des travailleurs de fast-food, eh bien on remarque qu'en fait, ce sont des salariés jetables, qu'ils rentrent et ils sortent sans avoir de promotion, en ayant quand c'est aux États-Unis, sans avoir de couverture sociale, sans avoir de couverture médicale, sans avoir de couverture de protection en vue du chômage, et en ayant des perspectives de carrière. Alors, les perspectives de carrière dans les fast-food des États-Unis, c'est de devenir manager, mais le manager, il n'a de manager que le nom, puisqu'il reçoit $1 ou $2 de l'heure de plus par rapport au salaire minimum, et il a des horaires extensibles. Alors, l'autre défaut sur lequel je voulais pointer, c'est ce qu'on peut appeler l'exotisme. L'exotisme, ça consiste à ne vouloir voir dans ces sujets, dans l'objet qu'on étudie, que les choses qui sont surprenantes, qui sont différentes des choses communes. Et donc, ça consiste à vouloir mettre l'accent, quand on travaille sur les populations pauvres, sur ce qui est le plus extrême, le plus étonnant, le plus surprenant, et à oublier finalement, là encore, ce que ces populations ont en commun avec avec tout un chacun.
Oui, mais enfin, ça donne quand même des visions complètement déformées.
Alors, on a en quelque sorte des
imagine-moi. Moi, je lis les trois ouvrages que tu as critiqués. Je ne connais pas le défaut ou les défauts de cette ethnographie nord-américaine. Je me dis, c'est magnifique. Les fast-foods, c'est super. Vendre des journaux dans la rue, mais c'est drôlement bien, sauf le soir, mais on ne le sait pas. Et ainsi de suite, quoi.
Oui, tout à fait. Bah, et d'une certaine manière, c'est ces ouvrages, un des défauts qu'ils avaient, c'est que un des défauts c'était d'être écrit en rapport avec le débat public, en rapport avec les stéréotypes ordinaires, et c'était de vouloir apporter, alors de vouloir apporter au lecteur un message qui est rassurant. Alors ça, c'est quelque chose de très prégnant aux États-Unis, où il y a donc ce moralisme ambiant dans lequel on va renforcer le lecteur de classe moyenne, éduqué, dans ses préjugés moralistes et moralisants, et on va apporter un message positif. Il faut toujours, quand on fait une ethnographie aux États-Unis, toujours avoir que ça se termine bien. C'est un peu Hollywood. C'est un peu, il faut surtout pas dire que il y a en fait un problème profond, durable, structurel, qui demanderait un changement profond de nature structurelle, qui demanderait une réorientation complète, par exemple, de la gestion du marché du travail. Ça, c'est au-delà du disciple. Il faut rester dans ce périmètre de que finalement, ben, les choses vont plutôt bien. Et puis, avec quelques ajustements à la marge, tout ira très bien dans le meilleur des mondes. Et donc, c'est une vision, à l'eau de rose, où on va... C'est un argument aussi, cet argument, cette conclusion positive des trois ouvrages, c'est un peu... c'est Hollywood, c'est un peu ce que j'appelle... C'est un paralogisme ou une erreur de raisonnement qu'on appelle en latin savant argumentum ad populum. Ça veut dire donner un argument au peuple, donner au peuple ce qu'il veut entendre. Donc donner au lecteur de classe moyenne qui va lire ce livre avec ses lunettes morales, lui donner une histoire qui le réconforte dans ses préjugés moraux.
Ouais, et en disant j'ai raison. Tu vas même beaucoup plus loin quand même. Tu parles dans la fin de l'ouvrage de sociologie de l'exorcisme social, quoi. C'est-à-dire qu'on veut pas voir que dans cette société nord-américaine, il y a des problèmes structuraux qui sont extrêmement importants, quoi.
Et on veut pas voir que les inégalités de classe ont cru de manière exponentielle et sont aujourd'hui abyssales, et que cette population pauvre, cette population qui flotte dans la rue en quelque sorte, ben elle est en développement croissant et elle est là de manière structurelle. Elle n'est pas le produit des défauts individuels, du manque d'éthique du travail de quelques-uns, et que cette population, notamment la population des sans-abri qui est prégnante, qui est partout dans la ville, ben finalement elle est aux portes même des maisons des professeurs qui écrivent dessus, et il faut en quelque sorte en exorciser la présence. Et il y a également un exorcisme au point de vue racial, qui est que cette population, ce sous-prolétariat noir des grandes villes, il est soumis à une double domination de classe et domination raciale. Or, cette perdurance de la domination raciale, c'est quelque chose, son ancrage profond dans la société américaine, dans non seulement dans l'espace social, mais dans l'espace des villes, dans l'espace urbain, et aussi dans la structure de l'État et dans les politiques étatiques. On préfère avoir une vision plus douce qui suggère que ce clivage racial peut être résolu avec quelques réformettes à la marge. Alors qu'en fait, quand on lit, alors l'ironie, c'est que si on lit ces trois ouvrages de près, on a en fait un diagnostic très 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 radical. Quand si on lit pas leurs interprétations mais les données qu'ils produisent, et qu'on les relie à l'aune d'une sociologie structurelle et politique, à ce moment-là on se rend compte que en fait les problèmes des gens de la rue, les problèmes de l'économie interlope de vente dans la rue, l'économie criminelle, l'économie des fast-food, en fait ne sont pas des solutions au problème de la misère, mais sont bien des vecteurs producteurs de la misère urbaine.
Radio Libertaire, 89.4, Misère de l'ethnographie de la misère, Loïc Vacan, édition Raison d'agir. Alors, pourquoi sortir ce livre aujourd'hui, sachant que la critique que tu fais de ces trois auteurs et de leur méthodologie date de 20 ans?
Alors, une raison.
Même si ça te sert à démontrer un certain nombre de choses, ça je l'ai bien compris.
Alors d'abord, il faut revenir à l'écriture initiale de ce texte en l'an 2000, en l'an 2002, qui était que c'est un texte que j'ai écrit en quelque sorte en discussion permanente avec Pierre Bourdieu.
Ouais, ça devait être une petite note de lecture qui est devenue quelque chose de bien plus important. Si...
Voilà, tout à fait, c'est devenu en quelque sorte un petit livre. Et Bourdieu m'avait dit, vous avez l'occasion, là, c'est une occasion rêvée, pour discuter des problèmes pérennes et des trappes dans lesquelles les ethnographes tombent quand ils tombent dans le moralisme, quand ils tombent dans le présentisme, quand ils tombent dans l'exotisme. Et le but était de publier ce petit livre à ce moment-là, en début 2002. Et puis, Bourdieu est décédé durant cette période. Donc ensuite, il y a eu une transition. Et puis, il y a eu aux États-Unis une campagne pour me discréditer. Donc les trois auteurs que j'ai critiqués ont lancé une campagne organisée pour essayer de me discréditer, me chasser du pays carrément. Et campagne qui n'a pas porté ses fruits. Parce que j'étais déjà un sociologue bien établi, j'avais une position sécure dans le département de sociologie à Berkeley qui m'a défendu. Et donc, il s'est devenu une espèce de controverse très, très virulente où les trois auteurs se sont en quelque sorte protégés de ma critique en la lisant comme une critique d'ordre politique et non pas d'ordre scientifique. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que aux États-Unis, il a été impossible de discuter de ces problèmes, alors que dans le monde entier, j'ai été invité au Brésil, au Portugal, en Italie, en France, à l'école normale, en Hollande, au Canada, pour discuter de ces problèmes. Et donc, ces problèmes, donc ça, c'est au début des années 2020. Et puis, ce qui s'est passé, en fait, qui a relancé le projet de ce livre, c'est de voir réapparaître et de voir réapparaître tous ces défauts, de voir que ce sont des défauts pérennes, et de les voir réapparaître à l'occasion de la publication d'un livre d'une auteure qui s'appelle Alice Goffman, qui se trouve être la fille du grand sociologue américain Irving Goffman, et qui a écrit un livre aux États-Unis qui s'appelle « On the Run »,« En cavale », qui a été traduit en français par Le Seuil. Et c'est un livre qui raconte la vie quotidienne des jeunes hommes noirs du ghetto qui sont en cavale, qui sont sans cesse poursuivis par la police parce qu'ils ont commis des crimes ou des délits. Et cet ouvrage a eu un impact gigantesque, d'abord aux États-Unis, sur la profession. Il a été immédiatement encensé, considéré comme un livre extraordinaire, comme faisant date immédiatement. Donc il a été élevé au rang de classique immédiat. Mais dans la foulée, les journalistes... Donc il a eu aussi un gros impact public, dans le débat public. Et donc il a eu beaucoup de recensions, beaucoup de débats dans les journaux, dans les magazines. Et les journalistes se sont penchés d'un peu plus près sur le travail de terrain. Et ils ont découvert qu'en fait, une partie du travail de terrain avait été enjolivée, voire inventée, que les crimes qu'elle décrivait ne s'étaient pas passés comme ça, que certains des épisodes qui étaient décrits avec beaucoup de détails, en fait, n'étaient pas plausibles. Et donc, ce livre canonisé est devenu un livre scandale, un livre à scandale. Et il se trouve que cette sociologue était aussi l'élève de Michel Dunayer et Elijah Anderson, qui sont deux des auteurs que je critique. Et donc, on retrouvait, à 20 et quelques années de décalage, une nouvelle canonisation de cette approche que j'appelle le moralisme individualiste. Et à nouveau, en quelque sorte, un débat au sein des sciences sociales qui a déteint sur la valeur même de l'ethnographie. Et donc, il était important. Donc, dans la condamnation de cet ouvrage, il y a eu une condamnation de l'ethnographie. Et donc, il était important de réagir et de faire le départ entre les défauts d'un ouvrage qui tombait dans ses paralogismes et puis la pratique de l'ethnographie. Quand elle est réfléchie, quand elle est guidée épistémologiquement, quand il y a une dialectique entre la théorie et l'empirie, et quand l'ethnographe prend le temps d'être ce qu'on appelle réflexif, donc de toujours prendre garde de la manière dont il produit ses données, dont il les analyse. Donc c'est en quelque sorte ce livre, c'est en quelque sorte une bouée de sauvetage pour l'ethnographie, pour qu'elle ne coule pas corps et bien dans la critique de cet ouvrage qui a défrayé la chronique.
Oui, ça veut dire que ta critique n'a pas porté, d'une certaine manière, quand même, faut bien le dire, elle n'a pas été entendue. Hein. Et en plus, ça dénigrer l'ethnographie, donc c'est extrêmement grave qu'il y ait des ouvrages de ce type-là qui soient produits aujourd'hui. Quoi.
Tout à fait, et donc c'était important de marquer le coup et de dire qu'il faut faire la différence entre une ethnographie mal faite et l'ethnographie en tant que telle. De même que vous pouvez avoir des travaux historiques qui sont mal faits, le travail d'archives a été bâclé, l'historien a raté des archives essentielles pour son sujet. Voilà, c'est un mauvais livre d'histoire, mais ça ne remet pas en cause la méthode historique en tant que telle. Là, de la même manière, cet ouvrage qui donc a réactualisé tous les défauts que je pointais chez les trois auteurs que je critiquais en 2002, qui a montré qu'en fait ces défauts sont toujours d'actualité. Et cet ouvrage a été pris notamment par le grand public comme un ouvrage typique d'une ethnographie. Et donc le grand public a identifié tous les défauts, y compris d'enjoliver ces données, voire de les inventer, de projeter ses valeurs morales. Et donc le grand public, pour lequel souvent l'ethnographie est le visage public de la sociologie, c'est l'ethnographie, parce que ce sont les ouvrages qui sont abordables, qu'un lecteur non universitaire peut lire. Et donc, il y avait urgence à sonner. Donc, en quelque sorte, avec cet ouvrage, je sonne le tocsin et je dis, attention, ne pas jeter ne pas jeter le bébé de l'ethnographie avec l'eau de ces mauvais livres.
Voilà. Mais ce livre-ci, La misère de l'ethnographie de la misère, va être publié aux États-Unis.
Oui, il va être publié en anglais. Et il est déjà contrat-signé pour être publié aussi en italien, en espagnol, en portugais, en turc et en allemand.
Oh là, donc, et Radio Libertaire est en avance, comme d'habitude.
Voilà, et Radio Libertaire est là, lance ce mouvement mondial. Et cela, pourquoi ? Parce qu'on pourrait dire, mais c'est un débat américano-américain, finalement, qui s'intéresse. Mais non, parce que c'est un débat sur comment est-ce que l'ethnographe produit son objet, comment il construit ses données, comment il les analyse, comment il rend compte de la vie dans un milieu particulier. Et donc de cette controverse, en quelque sorte, de cette sociologie négative, de toutes les choses qu'il ne faut pas faire. Alors, il faut dire que dans le livre, dans la troisième partie, j'indique quelles sont les choses, quels sont les remèdes. Donc, je prends les défauts un par un. Et je pointe des remèdes pour arriver à, en quelque sorte, réhabiliter l'ethnographie.
Alors, parlons remèdes, donc, ce serait quoi les préconisations en termes de méthode, en termes d'éthique, pour faire une recherche ethnographique qui prenne sens en dehors de toutes les représentations qu'elle peut véhiculer dans le cadre des ouvrages que tu as critiqués?
Alors,
pour éviter tous ces biais, quoi.
Alors, pour éviter ces biais, il faut, par exemple, j'ai parlé du biais interactionniste, qui est que... Alors, le biais interactionniste, il est en quelque sorte les vertus de l'ethnographie qui se retournent contre elle. Puisque ce qui fait la vertu de l'ethnographie, c'est qu'il est, comme on dit, in situ. Il est sur le lieu même du crime. L'ethnographe s'immerge dans le milieu qu'il va étudier. Donc, et il est, on peut dire là encore un peu de latin, in vivo. Non seulement il est sur les lieux mêmes, mais il voit l'action, il observe l'action dans son mouvement même.
Il vit même dans le.
Il vit dans le microcosme qu'il décrit. Il a plongé dans l'aquarium avec les poissons. Et donc ce sentiment d'être dans l'aquarium, il fait oublier que l'aquarium, il a des limites, qu'il y a quelqu'un qui donne de la nourriture aux poissons dans l'aquarium, que pour que l'aquarium soit vivable, il faut en renouveler l'eau, etc. Donc il y a tout un ensemble de mécanismes sociaux, tout un ensemble de structures sociales plus grandes que l'interaction, qui vont au-delà de l'interaction, qui vont au-delà de la rue, qui vont au-delà du fast-food. Par exemple, le fast-food, il est intégré dans une franchise, il est intégré dans une multinationale, il est intégré sur le marché du travail, il est aussi en rapport rapport avec les politiques publiques, les politiques sociales, les politiques urbaines.
Et puis une dimension culturelle aussi.
Donc il y a comme une série, on peut penser à une série de poupées russes. L'ethnographe, il est dans la dernière poupée à l'intérieur, mais il y a tout un ensemble d'espaces sociaux qui les englobe de plus en plus large. Et il faut que l'ethnographe, donc, pour contrer ce piège de l'interactionnisme, de penser que tout se joue là, tout est visible, tout est en surface, tout est perceptible par les sens, il faut qu'il se rappelle que non, il y a des institutions qui sont pertinentes, dont on voit en quelque sorte le fonctionnement, mais qui ne sont pas immédiatement données. Le marché du travail, c'est une abstraction. On ne voit pas le marché du travail. On voit un travailleur, on voit un employé, on voit une embauche, on voit une débauche. Mais on ne voit pas le marché du travail en tant que tel. C'est une construction. Le sociologue doit.
Ouais.
C'est une abstraction. Le sociologue doit amener pareillement l'État. L'État, il est incarné par les policiers qui régulent l'économie de la rue. Donc les policiers viennent, en quelque sorte, ils sont l'incarnation de l'État, mais ils sont pas tout l'État. Il y a l'État, il y a la main droite, il y a la main gauche, il y a l'État social, autant que l'État pénal. Et donc le sociologue, pour combattre, donc exemple, donc la préconisation que je donne pour éviter le piège interactionniste, c'est de reconstituer les institutions qui sont au-delà du périmètre du terrain et qui ont un impact sur le déroulement de l'action sur le terrain.
Ouais, mais ce que je ne comprends pas, c'est que ces gens qui produisent ces ouvrages-là ont été formés. Ça veut dire que même tout le processus de formation et d'éducation des futurs ethnographes est à repenser, quoi.
Alors, c'est tout à fait juste, et c'est l'objet de la première partie du livre. Toute la première partie du livre, elle retrace une histoire de 100 ans d'ethnographie urbaine, et elle montre comment, dès l'origine, ces défauts de l'ethnographie urbaine étaient présents. Par exemple, dès les années 20, dès les années 1920, donc il y a un siècle,
de Chicago, quoi.
Donc, l'école de Chicago va se focaliser principalement sur les catégories qui font problème dans la ville, les populations qui font problème, les populations déviantes, les populations pauvres, les populations immigrées, qui font problème pour qui ? Ben pour l'administration de la ville, pour le gouvernement municipal, pour l'État local. Donc ce sont premiers défauts, au lieu de découper leur population à partir de critères sociologiques, il les découpe à partir de critères politiques. Deuxième défaut de cette ethnographie depuis son origine, l'absence de l'État et l'absence du capital. Troisième défaut...
Donc, l'État et le capital existaient, mais on oublie parler...
On oublie de parler et de l'impact qu'ils ont. Pourquoi ? Ouais. Parce qu'ils ne sont pas présents en tant que tels.
Et de l'intégrer dans la réflexion, quoi.
Voilà, tout à fait. Et également, l'absence de théorie. Dès l'origine, l'ethnographie procède d'une approche qu'on peut dire empiriste, qui démarre à partir de ce qui est donné à nos sens. Donc ce qui est visible, ce qui est entendable. Et elle ne réalise pas que ce que le sociologue entend et ce que le sociologue voit, il le voit et il entend parce qu'il arrive sur le terrain avec des questions. Il arrive avec un principe de pertinence, avec un principe de sélection. Il n'est pas comme une plaque photographique vierge qui va être imprimée par la réalité, mais il arrive sur le terrain. D'abord, ce terrain, il l'a délimité. Donc, s'il l'a délimité, c'est qu'il a déjà une idée en tête sur ce qui est pertinent, ce qui n'est pas pertinent. Et donc, le sociologue, il arrive toujours avec des questions. Il arrive toujours avec une théorie, même s'il n'en est pas conscient. Et un des grands défauts de la tradition de l'école de Chicago, c'est de croire que le sociologue peut être dans l'empirie pure, peut se passer de théorie. Or, en fait, il existe deux types d'ethnographes. Il y a les ethnographes qu'on pourrait dire empiristes, qui pensent qu'ils partent du terrain et ils vont du terrain vers l'abstraction. Et puis vous avez ce qui est une illusion, ce qui est un manque de réalisme dans la conduite du travail de terrain. Et puis il y a de l'autre côté les ethnographes que l'on peut dire rationalistes, qui sont conscients qu'ils partent de la raison, du cerveau vers le réel et non pas du réel vers le cerveau, et qui engagent dans leur travail de terrain, dans leur observation, des outils théoriques. Et donc il vaut mieux être conscient de sa théorie que... Donc il vaut mieux penser sa théorie qu'être pensé par sa théorie. Il vaut mieux, du moment qu'il y a toujours de la théorie qui est impliquée dans l'observation, il vaut mieux le savoir et être conscient de sa théorie.
En gros, c'est savoir d'où on observe, quoi.
D'où on observe, quelles questions on a amenées avec soi sur le terrain.
La question valeur.
Quelles sont les valeurs que l'on injecte dans son terrain comment, par exemple, votre propre profil ethnique et social va influer sur ce que vous voyez, ce que vous ne voyez pas. Ouais. Ce qui pour vous fait problème, ce qui ne fait pas problème. Et donc l'ethnographe, alors bien que l'ethnographie est souvent décrite comme une pratique sociologique qui est purement descriptive. D'ailleurs, c'est dans le terme ethnographie, graphie, graphéine, écrire ethnos, une culture, un peuple. Donc ça veut dire écrire un peuple, décrire un peuple. Donc il y a cette idée qui est aussi très forte dans la tradition ethnographique française, aussi bien en ethnologie qu'en sociologie, que l'ethnographie, c'est finalement une discipline descriptive qui va faire un tableau pointilliste de la réalité sociale. Or, en fait, dans la réalité, le sociologue ethnographe, il vient avec des questions, avec des théories dont il n'est peut-être pas complètement conscient, mais il va sélectionner certains éléments pour des observations, il va en éluder d'autres, il va avoir certaines questions qu'il pose et d'autres questions qu'il ne pose pas. Ce n'est pas son objet qui parle de lui-même, ce n'est pas son objet qui agit de lui-même. C'est toujours le sociologue qui fait une sélection et qui donc il y a toujours cette dialectique entre la théorie et l'empirie.
Radio Libertaire 89.4. On va conclure donc, Loïc. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour terminer cette émission?
Ce que je voudrais dire, c'est que ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, Misère de l'ethnographie de la misère, c'est pas seulement d'être un critique et d'être un censeur et de dire ce qui ne va pas, de pointer du doigt les heurts et les malheurs de l'ethnographie, mais aussi d'être un promoteur de l'ethnographie. J'espère que le livre est une invitation à pratiquer le travail de terrain, à pratiquer d'une manière réflexive, où le sociologue ou l'anthropologue se pose toujours la question de son rapport à l'objet, de la manière dont c'est son inconscient à lui ou à elle travaille ses observations. Et c'est une invitation à la pratique ethnographique qui est historicisée, où on capture l'histoire des agents que l'on observe, mais aussi l'histoire des institutions dans lesquelles ces agents sont insérés. Et même, j'irai plus loin, je dirais une ethnographie que j'appelle inactive, dans laquelle l'ethnographe cherche à devenir partie prenante au phénomène qu'il étudie. Donc il s'efforce, ou elle s'efforce, de performer le phénomène, comme j'ai essayé de le faire dans mon travail sur les boxeurs.
Plus facile avec les boxeurs peut-être qu'avec les vendeurs de rue.
Alors c'est plus facile, mais par exemple, je termine un travail de terrain sur les procureurs du comté à la cour criminelle du comté de San Pedrito, en Californie, proche de Berkeley. Et il est évident que si on m'a laissé m'inscrire dans un club de boxe et boxer, on ne va pas me laisser mettre la robe d'un juge et juger un cas, mais par exemple, j'ai pu m'insérer en devenant stagiaire dans le bureau qui s'occupe de décider de la libération libération conditionnelle. Et donc, on peut toujours trouver dans un théâtre ethnographique une position dans laquelle on peut s'approcher le plus possible de l'action, plutôt que de rester simplement dans une posture d'observateur.
Voilà, donc, il ne faut pas être qu'ethnographe, il faut aussi être acteur, quoi.
Voilà, tout à fait.
Bon, merci à toi.
Merci, merci bien.
À bientôt.
Arriba los pobres del mundo, en pie los esclavos sin pan. Alcémonos todos que llega la revolución social. La anarquía ha de emanciparnos, se sola la explotación. El comunismo libertario será nuestro. Con la paz y la igualdad. La tierra será el paraíso libre de la humanidad. Agrupémonos todos a la lucha social. Con la paz lograremos el éxito final.
Réguliers contre irréguliers. On nous terrorise en obligeant nombre d'entre nous à émigrer en quête de conditions de vie moins odieuses. On nous terrorise en obligeant nombre d'entre nous à la clandestinité. Avec les flics sur le dos et la peur des expulsions, l'État et les patrons poussent des milliers d'individus dans l'ombre en les rendant encore plus dociles à l'exploitation. On nous terrorise avec le chantage du travail salarié. Soit tu te vends à un patron, soit tu crèves de faim. Terrorise avec l'image de l'étranger, barbare et intégriste, pour nous faire accepter plus de restrictions, plus de contrôle, plus de précarité, ou bien pour nous faire aimer une identité nationale, fausse et vide. Si le capitalisme ne respecte pas de frontières, pourquoi les exploités devraient-ils le faire? On nous terrorise avec les flics dans les quartiers, avec des rafles policières. La criminalité, c'est le prétexte. Le véritable objectif, c'est de faire baisser la tête à tous. On nous terrorise avec la prison, les expulsions, les camps de rétention. Plus les pauvres se haïssent, plus les riches s'engraissent. On nous terrorise en nous faisant croire que les terroristes sont ceux qui luttent contre l'État et les patrons, et non pas ceux qui bombardent des populations entières, colonisent les territoires en rasant les maisons avec les bulldozers. Il est temps que la peur change de camp. Il est temps que de la haine entre les races, on passe à la solidarité de classe, à la guerre des exploités contre les exploiteurs. Il est temps de se lever et de se mettre en marche. Yves Perra, Marseille, 4 janvier 2004.
Monsieur Gilou est chef du personnel, ou d'autres choses on ne sait pas très bien. Il est doué d'un talent exceptionnel, paraître utile, lui qui ne sert à rien. Il est connu dans toute l'entreprise, montré du doigt, désigné du menton. Sur son passage, on chuchote, on méprise, mais il est le chouchou du grand patron. Article 1, le chef ne sert à rien,
vraiment rien.
Nota bene, il faut l'éliminer,
éliminer.
En poursuivant ainsi la réflexion, on finira par licencier le patron. A-t-on jamais prêté de l'importance, autrement que pour s'en débarrasser, au grain de sable brisant la cadence, empêchant la machine d'avancer? De même au nom du fric, a-t-on jamais hésité une fois à dégraisser l'effectif pourtant insuffisant? Mais monsieur Gilou n'est pas là pour bosser. Article 1, le chef ne sert à rien,
vraiment.
Nota bene, il faut l'éliminer,
éliminer.
En poursuivant ainsi la réflexion, on finira par licencier le patron. Il ne supporte pas la concurrence et se targue d'être dans son domaine. Une épée, un phare, une référence, de l'extrait pur de ressources humaines. Dit-il, tout deviendrait bancal, l'édifice risquerait de chuter. À l'ordre branlant, je fournis la cale et l'indispensable inutilité. Article 1, le chef ne sert à rien,
vraiment rien.
Nota bene, il faut l'éliminer,
éliminer.
En poursuivant ainsi la réflexion, on finira par licencier le patron. Genre de de labeur, salariés tâcherons, à qui l'on a martelé le principe, qui dit, pour que le monde tourne rond, il faut suer à s'en sortir les tripes. Rompons avec ces tristes habitudes, Monsieur Gilou nous montre le chemin. Voyons l'exemple par la multitude, et tous unis, ne servons plus à rien. Article 1, nous ne servons à rien. Nota bene, allons-nous promener au fond des bois pendant notre excursion. Arrangeons-nous pour perdre le patron.
Du bon la tradition.
J'entends déjà crier à l'utopie, des hordes hurlantes aboyer au chaos. On me prédit la geôle, même pire, on me promet de me laisser K.O. Qu'importe, d'autres viendront après moi. Aussi, je vous invite en attendant, ensemble reprenons à pleine voix. Monsieur Gilou n'en a plus pour longtemps. Article 1, le chef ne sert à rien,
vraiment rien.
Nota bene, il faut l'éliminer. Et quand le patron se sera fait l'affaire,
on ira s'occuper des actionnaires.
Monsieur Gilou est chef du personnel, ou d'autres choses on ne sait pas très bien. Il est doué d'un talent exceptionnel, paraître utile, lui qui ne sert à rien.
À rien.
À rien, à rien.
Mm-hmm.